Radio Okapi.
Le journal Belinda Bosuma.
Un conflit foncier se solde en mort d'homme. Il oppose depuis le week-end dernier trois communautés de Katanda au Kasaï oriental. On compte deux morts à la machette, trois blessés graves et des dizaines de maisons incendiées. Les habitants ont déserté leur village. Et puis ces conséquences socio-économiques de la grève depuis hier des taximens moto de Boutembo, Beni, Lubero. Dans le Lubero par exemple, une grande quantité de poissons n'a pu être évacuée vers les grands centres de consommation. Les grévistes protestent contre la hausse du prix de carburant dans la région. Et puis, environ 80% de la population de Bukavu ne fait pas appel à un architecte pour un projet de construction, constat du secrétaire général du Conseil provincial de l'Ordre national des architectes, Liévin Bissimois, en appel à la responsabilité des uns et des autres. Il est l'invité de ce journal. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part du Kasaï oriental. Des affrontements ont opposé depuis le week-end dernier trois communautés du territoire de Katanda. Bilan, deux personnes de Benachimba tuées à coups de machette, trois autres blessées grièvement et plusieurs maisons incendiées dans les localités de Bakwachitongo et de Bumbu dans le territoire de Katanda, plus ou moins 60 km de Mbujimayi. Tout est parti d'un conflit foncier. Le ministre provincial de l'Intérieur et le commissaire provincial de la police par intérim comptent rendre sur place afin de s'imprégner de la situation. Esther Ndalafina nous raconte.
Au cours des affrontements de ce lundi, deux personnes de Benachimba ont été tuées à coups de machette, trois autres blessées grièvement et 47 maisons ont été incendiées dans le village de Bokwachitongo, affirment les sources concordantes. Une autre personne est morte suite aux affres des traumatismes à répétition dans son groupement, d'après certains témoignages de ses proches. La même source précise que les Benakapuya, en connivence avec les Benamwembia, ont attaqué pour la énième fois leurs voisins de Benachimba. D'après les autorités locales, il nous revient que l'affaire a rebondi vers la fin de la semaine dernière lorsque une famille de Benachimba a rapatrié de Mbujimayi une dépouille mortelle des membres de la famille pour enterrer à Benakabeya. Voyant une foule nombreuse qui chantait, leurs voisins de Benakapuya ont imaginé que la foule s'était bien investie pour les attaquer. Dans leur fuite, ils sont allés incendier une quarantaine de maisons qui venaient d'être reconstruites dans le village de Mbumbu après les troubles du mois de mars dernier. Pendant ce temps, les habitants de ces trois groupements en conflit ont déserté leur village et se sont abrités à Katanda. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, un technicien modulateur à la radio-télévision communautaire Soleil Levant, émettant en territoire de Nyiragongo, a été tué par balle la nuit de dimanche à hier lundi. Michel Hangi, c'est son nom, rentrait chez lui quand il est tombé entre les mains des bandits jusqu'ici inconnus, indique un communiqué de l'ONG Journaliste en danger parvenu hier à Radio Okapi. Bernardin Nyangi pour les détails.
C'est à quelques mètres de la station que Michel Hangi a été assassiné, aux environs des 19h locales, après la production de son émission de théâtre radiophonique qu'il anime, en plus de ses tâches de technicien modulateur, indique les sources de la radio communautaire Soleil Levant, émettant du village Kiziba 2 dans la périphérie de Goma, c'est à territoire de Nyiragongo. Seules les enquêtes qui ont été ouvertes par les services de sécurité pourraient élucider les contours de ce meurtre, indique ses sources. Ces dernières n'excluent pas l'hypothèse des conflits ou jalousies d'autres personnes mal intentionnées. La victime était devenue populaire dans le monde du théâtre et publicité dans la zone. L'un des journalistes en danger, Jed, dans son communiqué, déplore cet autre incident. Ceci arrive alors que la situation sécuritaire des journalistes devient inquiétante dans le territoire de Rutshuru, voisin de Nyiragongo. Là, un journaliste de la radio communautaire La Voix de Mikeno, émettant de Bunagana, craint aussi pour sa vie après avoir été détenu et torturé le 5 juillet dernier par des rebelles du M23, précise Jed. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Entre-temps, en Ituri, le tribunal militaire de garnison de Bunia, siégeant en chambre foraine à Komanda, a débuté ce mardi l'étape de plaidoirie et de réquisitoire dans l'affaire de meurtre des civils, dont celui d'un ancien journaliste d'une radio de Haute-Mabère. Des activistes des droits de l'homme et la société civile locale qui prennent part à ce procès disent attendre un procès équitable dans le cadre de la lutte contre l'impunité. Ézéchiel Mouzalia.
C'est depuis samedi dernier que ces audiences ont commencé devant le bureau de la police nationale congolaise au centre de Komanda dans le territoire d'Irumu. Deux militaires sont à la barre dont un est accusé du meurtre il y a une semaine d'un civil identifié comme ancien journaliste exerçant au village de Otomaber et un autre présumé meurtrier d'un conducteur de taxi moto. Selon le président du tribunal militaire, pour ce mardi, le ministère public fera son réquisitoire avant que la partie défenderesse réplique avec ses moyens de défense. L'ONG de défense des droits de l'homme, CRDH, qui suit de près ces dossiers, invite les juges à bien dire la loi. Christophe Mounyanderou.
Il faudrait que les droits soient dits, parce que souvent, il y a des influences politiques et ça parvient à ne pas rendre justice aux justiciables.
Le porte-parole de l'armée en Ituri indique que ces procès prouvent la détermination des autorités militaires à mettre fin à l'impunité et restaurer la discipline au sein de la troupe. Le lieutenant Jules Ngongo.
Le militaire protège. Cela ne doit pas rester impuni, c'est juste pour arriver à ramener la discipline au sein des forces armées, ramener les militaires à l'ordre.
Signalons que ces audiences, dont le verdict est attendu cette semaine, bénéficient de l'appui financier des autorités militaires. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Je vous le disais en titre, les acteurs de la société civile du territoire de Lubero déplorent les conséquences socio-économiques de la grève de deux jours décrétée depuis hier par les conducteurs des mototaxis de la région de Butembo-Beni-Lubero. Ces derniers protestent contre la hausse du prix de carburant dans la région, des transporteurs de poissons à partir du lac Édouard par moto et d'autres produits agricoles vers les grandes agglomérations ne travaillent plus grâce à Mzati. Reportage.
Dans la partie sud du territoire de Lubero, par exemple, des grandes quantités de poissons issus des chefferies de Kamandi-Lac, Kiserera et Lunyasenge sur la côte ouest du lac Édouard n'ont pas pu être évacués depuis lundi vers les grands centres de consommation. Selon Sami Sakumi, président de la société civile de Kamandi, cette situation constitue non seulement un manque à gagner pour les fournisseurs de poissons, mais aussi risquerait d'influencer la hausse du prix de cette denrée sur le marché. Du côté nord-ouest du territoire, notamment dans les secteurs de Bapéré et la chefferie de Bassoa, ce sont plus les agriculteurs et d'autres vendeurs de produits vivriers qui en paient le prix. Cette zone est l'un des greniers de la ville de Butembo. Témoignage de Mumbere Kaitu Pargelas, un acteur de la société civile dans la région.
Nous n'avons que des mototaxis ici chez nous comme un moyen de déplacement et moyen de transport. Les agriculteurs ont eu du mal à évacuer leurs produits des champs jusqu'au centre de commercialisation ou de consommation. Et nous appellerons aux organisateurs d'avoir pitié de cette pauvre population, donc qu'ils voient une autre voie, une autre façon de revendiquer leurs droits.
Ces acteurs de la société civile interpellent aussi les autorités quant à ces. Butembo, Grâce à Mzati, Radio Kapi.
75 enseignants venus de plusieurs villages de la province du Olomami sont à Kamina depuis plusieurs semaines. Ils viennent réclamer leurs arriérés de salaire de 3 mois. Jusqu'à présent, ils ne sont toujours pas servis par la banque censée les payer. Ils demandent l'implication des autorités au niveau national pour décanter leur situation. Des détails avec Jean Gandou.
Ces enseignants disent avoir quitté leur milieu depuis plusieurs semaines sans avoir terminé toutes les matières prévues dans le calendrier scolaire. Après avoir attendu en vain leur salaire des 3 derniers mois, ils se sont décidés de rejoindre la ville de Kamina, chef-lieu de la province du Olomami, où se trouvent les bureaux de la banque qui les payent. Jusqu'à présent, ils n'ont aucune suite favorable et continuent pour la plupart à passer la nuit à la belle étoile, s'exposant ainsi à toutes sortes d'intempéries. Parmi ces enseignants qui constituent un échantillon, on compte 25 femmes, dont 12 ayant des bébés et 3 qui attendent famille. On écoute le cri de détresse de cette enseignante venue du territoire de Kanyama.
Je suis enseignante de l'école primaire, territoire de Kanyama. Je fais 200 km à pied avec mon bébé. Je fais une semaine en route Kanyama-Kamina. Il y a 3 mois que je ne suis pas payée. Nous sommes nombreux, nous dormons dehors, nous manquons la nourriture. C'est pénible vraiment. Demandons au chef de l'État et son gouvernement de s'impliquer dans cette situation douloureuse.
Tous nos efforts pour avoir la réaction de la banque incriminée sont restés. Sur place à Kamina, certains députés se mobilisent pour apporter leur assistance à ces enseignants en détresse, notamment pour leur survie. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Au Maniema, signalons le report de la date de proclamation des résultats de fin de l'année. C'est une déception totale de la part des parents et élèves eux-mêmes. Ces derniers avaient déjà engagé des dépenses pour fêter cet événement. Ils regrettent cette décision du ministre de l'EPST, Tony Mwaba. Des précisions avec Florence Kiza.
C'était déjà à partir de 7h que les élèves accompagnés de leurs parents étaient visibles sur le riz de Kindu en direction de leurs écoles respectives. Arrivés sur place, ces derniers ont été accueillis par un communiqué leur informant du report de la proclamation. C'était une déception pour les enfants.
Tout le monde est rentré, on dit que la proclamation n'est plus aujourd'hui.
Nous sommes désolés, il n'y a plus de proclamation aujourd'hui.
Pourquoi le plan n'est pas aujourd'hui?
Même sentiment du côté des parents.
La proclamation était prévue aujourd'hui, mais nous sommes venus avec les élèves au lieu de la proclamation. Nous retrouvons que la proclamation n'a pas eu lieu. Et tous les dispositifs étaient déjà pris pour la proclamation de nos enfants. Il y avait la nourriture qui était déjà préparée. Vraiment, nous ne savons pas qu'est-ce que nous devons faire. Puisque administrativement, les communiqués devraient sortir 48 heures avant pour prévenir un peu nous qui sommes parents. Donc c'est une déception totale.
Et on a préparé presque toutes choses, croyant que le résultat de nos enfants sera pour aujourd'hui. Mais nous sommes étonnés. Arrivé le matin, on nous affiche des communiqués à l'école pour dire que la proclamation n'aura plus lieu aujourd'hui.
Le prophète Maniema 1 a pris maintenant son temps pour relayer cette décision du ministre dans les radios pour faire comprendre aux parents, élèves et les acteurs éducatifs. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Du côté du Kwilu, près de 15 400 candidats finalistes du secondaire prennent part à la session ordinaire de l'examen d'État pour la province éducationnelle Kwilu 1. Le lancement officiel a eu lieu hier, comme partout ailleurs, à Bandunduville, par le vice-gouverneur Félicien Kiwai, en présence de plusieurs autorités politico-administratives et des cadres du secteur de l'éducation, Irène Mbouma.
C'est au niveau de l'Institut Bosembo, l'un des centres de passation d'examen d'État à Bandunduville, que le lancement du dit examen a eu lieu ce lundi pour le compte de la direction provinciale de l'EPST Kwilu 1 par le vice-gouverneur Félicien Kiwai. Prenant la parole à cette cérémonie solennelle, le directeur provincial de cette province éducationnelle, Denis Changa Kapinga, qui a rendu des vibrants hommages au ministre national de l'EPST, Tony Mwaba, pour la gratuité de l'enseignement de base, a donné les effectifs des candidats à cet examen.
L'EPST Kwilu 1 organise l'examen d'État avec un effectif de 15 408 candidats, dont 6 859 filles, soit 44% des participants.
Après avoir fait la ronde d'au moins 5 centres d'examen d'État à Bandundu, Félicien Kiwai a fait le constat suivant.
L'examen se passe bien dans tous les centres où nous sommes passés. Nous avons donné la bénédiction pour que les enfants puissent réussir. Les abandons que nous avons constatés, ce sont des abandons qui remontent depuis la dissertation. On ne sait pas décortiquer les raisons de ces abandons.
Notez que pour les comptes de la province du Kwilu dans l'ensemble, le lancement de l'examen d'État de cette année a eu lieu dans la province éducationnelle Kwilu 3 à Kingandu par le gouverneur Willy Itundala. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Je suis venue m'acquérir des problèmes qui guettent les agents de la fonction publique en Ituri et voir très rapidement dans quelle mesure y trouver des réponses. C'est ce qu'a déclaré le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique. Jean-Pierre Liaou est arrivé hier à Bounia, chef de l'Ituri. Selon lui, le chef de l'État est déterminé à redresser l'administration congolaise au profit des fonctionnaires de l'État. Ce mardi, Jean-Pierre Liaou va présider une réunion de travail avec le gouverneur de l'Ituri avant de rencontrer les cadres et agents de l'administration publique. 634 blessés de guerre ont été pris en charge depuis le début de cette année par le CICR et ce, dans des centres hospitaliers de référence de Bukavu, de Goma et de Beni. C'est dans le cadre du projet de prise en charge des blessés par arme par le CICR, conformément à ses principes d'impartialité et de neutralité. Ces chiffres ont été donnés hier à Radio Okapi par cette institution. Lassane Zongo, responsable de programme chirurgical au CICR Sud Kivu, explique également qu'un centre d'excellence en chirurgie de guerre sera bientôt opérationnel à Bukavu, ce qui permettra aux acteurs locaux de s'approprier toute l'expertise en chirurgie des guerres. Lassane Zongo le dit au micro de Cynthia Bachizi.
Les 6 premiers mois de l'année nous présentent un total de 634 blessés qui ont été pris en charge dans les structures de référence, l'hôpital provincial général de référence de Bukavu et l'hôpital de Ndosho, avec bien sûr une antenne au niveau de l'hôpital général de référence de Beni. Quand les patients arrivent, ils sont donc admis et sont mis dans le circuit de prise en charge et de bout en bout, ils reçoivent donc les soins conformément à leur état. Et lorsque les soins finissent, alors le CICR a également une alternative pour les accompagner pour leur retour dans leur foyer. Je peux vous rassurer que au début donc du projet en 2012-2013, Le CICR avait des équipes d'expatriés au niveau de l'hôpital provincial général de référence de Bukavu. Et déjà dès 2015, c'est des chirurgiens donc de l'hôpital qui ont pris désormais en main l'activité chirurgicale. Et très prochainement, il y a un centre d'excellence en chirurgie de guerre qui est en train d'être mis en place au niveau donc de Bukavu pour pouvoir renforcer l'offre de formation.
Actualité internationale. La campagne pour la présidentielle se poursuit au Kenya. Raila Odinga a tenu une conférence de presse avec sa colistière, l'avocate de formation Martha Karua. Cette dernière a abordé l'un des thèmes phares de leur programme, la lutte contre la corruption. Le président turc Recep Erdogan doit rencontrer ce mardi son homologue russe Vladimir Poutine à Téhéran, la capitale de l'Iran. C'est en marge d'un sommet tripartite avec le chef de l'État iranien Ebrahim Raisi. Au programme de cette rencontre, la Syrie. Après 12 ans de guerre ininterrompue, le pays s'enfonce chaque jour un peu plus dans la crise économique. Au menu aussi, la question de la reprise des exportations des céréales d'Ukraine.
L'invité.
Il nous vient du Sud Kivu. Environ 80% de la population de Bukavu ne fait pas appel à un architecte lors d'un projet de construction. Constat fait par Liévin Bissimoua, secrétaire général du Conseil provincial de l'Ordre national des architectes. L'architecte en appelle à la responsabilité des uns et des autres pour assainir le secteur et mettre fin à la prolifération des constructions anarchiques dans la ville. Liévin Bissimoua, notre invité, répond aux questions de Cynthia Bachizi.
Yévin Bissimoua, bonjour.
Bonjour madame.
Lorsqu'aujourd'hui vous voyez le paysage architectural ou même le paysage urbanistique de la ville de Bukavu, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit?
Il y a beaucoup de problèmes. Il y a le non-respect de la loi. À Bukavu, 80% de la population, je crois, construit sans l'autorisation de bâtir. 100% de la population construisent presque sans tenir compte des normes urbanistiques. Alors que la personne qui est mieux placée pour donner toutes les directives aux clients, c'est l'architecte. Une fois que l'architecte n'est pas consulté, imaginez les restes. Je prends votre exemple, vous voulez construire. La première chose, vous devez commencer par consulter un architecte. C'est lui qui vous dira que non madame, ce terrain va vous coûter cher, ou voilà, vous pouvez investir. Il vous fait un plan. C'est lui qui vous donnera d'autres directives, que non, voilà, ce que je trouve, il faut consulter un géomètre topographe pour les études, la pente du terrain. Et lorsque vous revenez encore pour lui, il va vous dire, voilà, moi je pense que le sol n'est pas bon. Consultons un ingénieur géotechnicien pour les études du sol. Donc c'est la personne qui doit vous guider. Et lorsque vous ne consultez pas cette personne, attendez-vous à des dégâts.
Donc aujourd'hui dans Bukavu, très peu consultent des architectes.
Je dirais presque pas. Ils sont très rares à part les confessions religieuses et l'État.
Vous, vous représentez l'ordre des architectes. Mais est-ce que la population n'est pas lassée aussi? Parce qu'il y en a peut-être certains qui ont fait recours à des architectes, mais qui n'ont pas été à la hauteur.
Je pense que non. Dire que certains ont fait appel aux architectes et qui n'ont pas failli à leur mission, moi je m'inscris en faux. Parce que lorsqu'un architecte, vous le consultez, ne fait pas sa mission comme il se doit, allez vous plaindre au conseil provincial. Le problème sera analysé et on va vous remettre dans vos droits. Donc l'organe est déjà là.
Comment alors assainir le secteur de la construction dans Bukavu?
C'est simple. Les lois existent. La mise en application des lois. Je parlais de la loi numéro 6 de 2019 portant code de l'urbanisation. Là-dedans, on te dit qu'il faut consulter les experts. Là, on te décrit des tailles des parcelles. À Bukavu, je crois que c'est l'unique province de la RDC où nous avons des parcelles de 6 sur 9. Lorsque vous parcourez les schémas directeurs de l'urbanisme, cette taille-là n'est pas déterminée dans ce document. Parce qu'il y a des trames très économiques, des trames économiques, les moyens et les trames riches. Mais vous ne trouverez pas les mesures des parcelles que nous avons dans la ville de Bukavu dans ce document. Il n'y en a pas. Donc c'est déjà hors norme.
Hors norme, donc la responsabilité incombe à l'État de faire respecter les lois.
Mais bien c'est clair. Quand quelqu'un se met à construire un immeuble parce qu'il a son argent, n'a pas consulté qui que ce soit, et demain il y a des dégâts. Et là en province commence à crier l'architecte qui n'a pas été consulté. Alors on décline toutes les responsabilités. C'est à l'État de faire respecter ces lois. Parce qu'il circule sur la route, il voit comment on est en train d'empiéter les emprises de la route. Mais rien n'est fait. Ce n'est pas à moi, un architecte simple, qui ira dire à ce monsieur, non monsieur, tu empiètes déjà l'emprise de la route. Je n'ai pas de compétences. C'est à l'État de le faire.
Vous avez parlé du recours à l'architecte, mais vous n'avez pas fait allusion à l'ingénieur. Est-ce que ça va de pair? Où se situe la différence entre le travail que fait un architecte et celui de l'ingénieur?
Madame, il y a la loi 18/34 du 13 décembre 2018 portant création, organisation et fonctionnement de l'Ordre national des architectes. La mission de l'architecte est bien déterminée là-dedans. La mission de l'ingénieur est déterminée dans l'autre. Je crois que c'est la loi 1833, je crois. C'est deux choses différentes, mais les deux se complètent. C'est différent les deux, mais ils se complètent. Mais là où la mission de l'architecte prime, parce qu'on nous dit que c'est la personne qui est habilitée à ménager les espaces où l'homme vit et séjourne. Donc la première personne qu'il faut consulter pour toute construction, c'est l'architecte. C'est lui qui vous dira, ici, il faut consulter maintenant les ingénieurs pour le calcul des structures, par exemple. Là, ça dépasse les compétences de l'architecte. Il vous dira, avec la qualité des sols que je vois, il faut un géotechnicien pour les analyses de sols. Donc, c'est la personne qui connaît quoi faire pour que votre bâtiment soit réalisé tel que souhaité.
Vous êtes pour la construction d'une nouvelle ville en dehors de Bukavu?
C'est une question à débattre. Parce qu'il faut d'abord se poser la question, est-ce que Bukavu est déjà surpeuplé? Si oui, que faire? Soit on peut déplacer la ville, c'est possible. Tout comme on peut, sur le même superficie de la ville, et reconstruire encore la ville de Bukavu. Donc il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs scénarios à faire. C'est question de mener des études là-dessus. Mais je précise qu'il y a l'unité de planification spatiale. C'est un grand cabinet qui a mené des études sur ça. Et ils ont fait un joli modèle qu'il faut vraiment pour la ville de Bukavu.
Donc il n'est pas encore trop tard pour sauver Bukavu?
Il n'est pas tard. Il n'est pas tard. Et il faut que l'État martèle là-dessus. Il faut que nous aussi, nous puissions l'accompagner parce que lui-même ne saura pas. Et puis, dans 5-10 ans, on aura une très belle ville. Mais si on laisse ça comme ça, et c'est fini. C'est fini.
Je vous remercie.
Merci beaucoup, madame.
Voilà, c'était là notre invité, Liévin Bissimoa, secrétaire général du Conseil provincial de l'Ordre national des architectes. Il intervenait depuis Bukavu avec Cynthia Bachizi. C'est la fin de ce journal coordonné par Élisée Chikotati Vueta. Supervision de Martin Sebujangwe, Mimi Kindo à la mise en onde et Belinda Bosuma vous l'a présenté. Merci de nous avoir suivis.